Allez, on va ouvrir le deuxième livre des rois. Deuxième livre des rois, au chapitre 4, au verset 8. Voilà. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Gehazi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Gehazi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Gehazi, dis-lui, voici que tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit, que faire pour elle? Gehazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Gehazi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit seller l'ânesse. Il dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Gehazi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Gehazi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Gehazi, s'interromps, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Gehazi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est point réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Gehazi et dit, appelle cette Tsunamite. Gehazi l'appela, elle alla vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils est sorti. Amen. Ce n'est pas une histoire des plus connues de la Bible, il y en a d'autres, mais néanmoins, je dirais que cette histoire, elle est remarquable, parce qu'elle nous montre combien Dieu peut transformer des situations, combien Dieu peut changer également l'attitude d'un homme, combien Dieu peut transformer la vie d'un homme ou d'une femme. La Tsunamite est une femme assez aisée, je parle de cela pour la situer un peu. Son village est au pied du mont Tabor, entouré des meilleurs champs de blé du monde. C'est une région dans laquelle je suis allé. Elle est riche et en plus elle a une qualité, elle est hospitalière. Elle est sensible, voyez. Sunem se trouve à peu près à mi-chemin entre la Samarie et la côte, la Méditerranée, à peu près une journée de marche à pied de chaque côté. Malgré son caractère, je dirais, elle est sain. On ne peut pas dire qu'elle avait une auréole, hein, mais elle était quand même de bon caractère, de bonne composition. Elle avait, je dirais, un grand chagrin dans sa vie. Elle était stérile. Ce qui lui aura certainement valu le mépris et de sa famille, et de ses concitoyens, de ceux qui certainement devaient la jalouser parce que elle avait quand même des biens. Hein. Tu vois, c'est comme ça. Hein. Voilà. Alors le prophète Élisée, reconnaissant de l'hospitalité que lui accordait tout simplement cette femme, voulait également la récompenser, lui faire du bien parce qu'elle faisait du bien. Alors il était normal que lui veuille lui faire du bien également. Il va lui promettre ceci. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Je ne sais pas si vous avez remarqué la réaction de cette femme. C'est étrange au départ. Non ! Vous voyez ? Ça devait être quelque chose d'important pour elle. Parce que même si son mari avait de l'âge, elle avait certainement aussi pris de l'âge. Et lui dire cela, c'était quelque part la provoquer intérieurement. Ou lui provoquer des souffrances. Elle lui dit, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Donc voici une femme qui voulait croire, mais qui ne l'ose plus, ou pas. Eh oui. Combien de tsunamites y a-t-il parmi nous aujourd'hui que nous pouvons rencontrer quotidiennement? Comme cela, nous trouvons des gens qui ont envie de donner leur vie à Jésus, mais qui n'osent pas, par peur justement de ce que les autres diront. Vous savez, le « qu'en dira-t-on ? » Ils en connaissaient, pourtant ils ont compris. Eh oui, eh oui. D'autres parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à tenir le cap, à aller jusqu'au bout. D'autres parce qu'ils ont espéré peut-être être guéris. Et puis, la guérison n'est pas venue. D'autres, la délivrance intérieure de quelque chose qui les fait souffrir. Mais ça a été l'échec. Alors, ils n'osent plus croire. D'autres ont cherché à être comblés par rapport à un besoin particulier, mais ils sont toujours en recherche. Donc, déçus eux aussi. Ils voulaient vraiment tous croire. Oui, tous croire. Hein, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est prêché, tout simplement, semaine après semaine. Mais ils n'osent plus. Ils n'osent plus. Certains n'osent plus demander que l'on prie pour eux. Eh oui. De peur, justement, d'être de nouveau déçus. Alors, ils réagissent un petit peu comme le tsunamite. Ne trompe pas ta servante. Eh oui. Pour cette femme, sa longue déception l'avait certainement rendue sceptique. Et ce n'était pas possible pour elle. Ça ne pouvait pas arriver. Donc, elle s'était fait quelque part cette idée-là. Vous voyez ? C'est comme ça. Eh oui. Alors, il y a beaucoup de tsunamites, même parmi les enfants de Dieu. Eh oui. Ils savent ce que la parole de Dieu dit, ce qu'elle promet, ce que Dieu dit, promet dans sa parole, ce qu'il dit, ce qu'il avance, les arguments qu'il apporte également. Il y a même des preuves, il y a des actes et des actions qui se sont passées dans le passé, mais c'était le passé. Vous voyez ? Alors ils pensent que ce n'est pas valable pour eux. Un petit peu comme elle, hein ? Et oui. Ils croient que dans le pardon, la guérison, la délivrance, la victoire, mais voilà que, eh bien, ils ne pensent pas que pour eux, ils puissent être pardonnés de leurs fautes. Eh oui, j'en connais, j'en ai connu, j'en connaîtrai encore. Eh oui, eh oui, eh oui. Guéri, mais c'est pas possible avec ce que j'ai. La délivrance, quand on est tenu par quelque chose, qu'est-ce que c'est tenace? Puis la culpabilité, elle est là. Parce qu'il y en a un qui se régale après nous avoir tenté, nous avoir fait succomber à la tentation. Il en rajoute encore en nous disant Tu te dis enfant de Dieu, toi? Il en rajoute, voyez un petit peu, eh oui. Alors au début, ils y croyaient, mais parce qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'ils n'ont pas été bénis, visités, parce que ça n'a pas répondu à leur espérance, eh bien, ils ont perdu tout espoir. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est que nos doutes n'anéantissent pas, je dirais, les promesses de Dieu. Eh oui. L'exemple est là. Cette femme, c'est un exemple particulier. Malgré ses doutes, elle est tout de même devenue enceinte. Elle a mis au monde un fils. Amen. N'est-il pas dit pour Abraham aussi qu'espérant contre toute espérance, il a cru. Et il a vu le miracle. Vous voyez? Il a cru. Il a vu le miracle. Elle, elle était dans ses doutes. Non. Arrête. Ne me trompe pas. Ou si vous préférez, arrête de me faire souffrir avec ça. D'autres l'ont fait, pas toi. Parce qu'elle avait une haute estime de l'homme de Dieu, hein, bien sûr. Alors la parole de Dieu, vous savez, elle reste valable, même si on a du mal à y croire. Eh oui. Les promesses de Dieu ne sont pas oui, amen, en nous, mais en Jésus. Et là est toute la différence. C'est en Jésus. Ce n'est pas sur nous. Même, je dirais, le plus dévoué, le plus spirituel, c'est en Jésus qu'est le oui et l'amen. Alors le doute peut nous empêcher d'accepter les promesses de Dieu. Mais nos doutes n'empêchent pas Dieu, lui, d'accomplir ses promesses. Amen. Toi, tu veux pas? Lui, il est prêt. Hein, Guy, t'es prêt? Allez, c'est pour toi, Guy. Vous comprenez? Et personne n'a pu arrêter Dieu. Dieu le fait. Dieu tient toujours parole. Il tient toujours ses promesses. Écoutez un petit peu ce que dit le livre de Josué. Josué, chapitre 21, verset 45. Je ne sais pas s'il a mis. Oui. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes, vous entendez? Toutes s'accomplirent. Amen. Josué 23, verset 14. Reconnaissant de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet, toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Amen. Et on aurait pu multiplier les lectures, hein? Eh oui, Dieu dit, mais également il agit. Les hommes disent, mais bien souvent ils ont de la difficulté pour aller jusqu'au bout de leur parole. On vous fait de belles promesses pour des élections, et puis ensuite vous constatez la fin du mandat. Oui, mais non. Mais la fin, parce qu'il faut voir la fin. Il faut toujours se rattraper à la fin. Hein. Vous voyez? Mais oui, pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas tout. Dieu peut tout, mes amis. Amen. Parfois, nous ne sentons pas, je dirais, que Dieu est avec nous. Hein, qu'il va accomplir ses promesses. Mais voilà que la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, l'action de Dieu ne dépend pas de nos sentiments. Vous comprenez? Ça marche pas comme ça. La puissance de Dieu ne travaille pas par nos sentiments, mais par la parole de Dieu. Et Dieu veille sur sa parole. Il veut l'accomplir. Et là, nous voyons la promesse de Dieu par la bouche de son serviteur, le prophète, elle s'accomplit. C'est-à-dire que Dieu accomplit sa promesse. Je vous rappelle qu'elle n'a rien demandé, puisqu'elle n'osait plus y croire. Sa première réaction, ça a été non. C'est formidable quand vous allez prier pour quelqu'un, hein? Non. Eh oui. Mais oui, c'était ça, hein? Alors elle s'accomplit, bien sûr. Dieu accomplit sa promesse. Et Paul dit qu'il est capable de faire infiniment, hein, c'est Éphésiens 3:20, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Combien de fois nous l'avons limité? Ah là, non, le Seigneur ne pourra pas. Eh bien, si. Et là, on est étonné. On se fait tout petit. On dit, Seigneur, j'ai douté de toi. Pardon. Pardonne-moi. Alors, ne sous-estimez pas Dieu. Ce serait dommage, hein, de se priver de sa grâce. Alors, imaginez un petit peu le bonheur pour cette femme. Lorsqu'elle a appris, elle a fait le test. Non, pas à cette époque. Mais elle a senti certaines choses changer en elle. Hein, voilà, certaines choses ont disparu. Vous voyez ? Donc, imaginez un petit peu, lorsqu'elle est tombée enceinte, qu'elle a mis au monde son fils. Quelle joie ! Pas déçu d'avoir accueilli cet homme de Dieu. D'avoir été avec lui, aller à la hauteur, avoir su lui faire du bien, le mettre dans de bonnes dispositions pour exercer son ministère. C'est formidable. Elle l'a vu grandir. Son enfant est là. Il est l'enfant du miracle. Et oui, c'est authentique. C'est l'enfant du miracle. Voilà que nous sommes maintenant quelques années plus tard. Il est déjà devenu un grand garçon. Mais un jour, alors qu'il est avec son papa dans les champs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta, l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis la vie s'arrête. L'horreur. Croyez pas ? Imaginez sa déception. Elle ne voulait pas tromper, elle l'a dit. Et là, le souffle de vie est coupé. De ce que nous savons, ou ce que nous avons dit déjà au sujet de la tsunamite, nous pouvons nous imaginer comment elle va pouvoir réagir maintenant. Ha ! Tu vois, je savais. Je savais. Quelle désillusion ! Je savais, pourquoi est-ce que Dieu me punit ainsi ? Il n'y a pas qui le dise, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Hein, oui, oui. Il me donne un enfant, il me permet de réaliser mon rêve et maintenant il me l'enlève. En fait, mon rêve, ne s'avère être qu'un mirage. De plus, j'ai imploré l'homme de Dieu, le prophète. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Elle ne me fait pas souffrir encore plus. Je souffre déjà assez. Mais voilà que c'est étrange. On ne la voit pas réagir comme ça. Non. Et au lieu d'écouter ses sentiments, parce que ça devait bouillir à l'intérieur, il y avait une souffrance. C'est comme si sa vie s'arrêtait à elle aussi. Mais oui. Elle accepte ce qui lui arrive. Et elle se dit, je sais une chose, c'est que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et je ne sais pas si vous remarquez le changement qu'il y a. Au lieu de s'avancer en disant premièrement, non, mais je ne peux pas avoir d'enfant, arrête. Arrête, je ne peux pas avoir d'enfant. Voilà qu'elle dit maintenant, cet enfant, je ne veux pas le perdre. Vous comprenez le changement d'attitude ? Il s'est vraiment passé quelque chose chez elle. Et voyez-vous, la vraie foi, elle ne change pas lorsque les circonstances, elles, changent. La vraie foi ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu. Si Dieu a dit, je le crois. Et même si les hommes, si le monde vient me dire non, moi je dirais oui. C'est ce qu'elle vit. Si Dieu a promis, s'il a dit oui, si dans sa parole il a fait une promesse, ça c'est la vérité. Ça c'est ce qui va se réaliser. C'est ce qui va se passer. Et malgré les circonstances, malgré ce que d'autres disent ou pensent, elle n'en déborde pas. Tu m'as donné ce fils. Il est à moi. Il ne partira pas. Je veux le garder auprès de moi. Je veux le voir grandir encore et encore. Alors ces circonstances, finalement, lui donner raison de croire que ce qu'elle avait craint était quand même arrivé. Hein? Puisqu'elle avait dit, ne me trompe pas ta servante. Et là, quelque part. Mais elle a décidé finalement de faire taire son raisonnement, de faire taire également sa colère, elle fait une chose, elle décide d'agir selon la parole de Dieu, plutôt que de croire à ses circonstances. Vous voyez ? Alors elle refuse d'accepter la mort de son fils, puisqu'elle prend des dispositions pour. Elle l'amène pas n'importe où, hein. Elle l'amène dans la chambre haute, le lieu justement où l'homme de Dieu, le prophète, eh bien, se préparait pour aller accomplir son ministère, pour aller travailler à la gloire de Dieu. En plus, elle ne dit rien à personne, même pas à son mari. Elle met le corps du garçon sur le lit du prophète, elle ferme la porte à clé, elle part pour le Carmel, 40 kilomètres. Pas de taxi, hein. Ni le bus qui passe, ni le bac pour moi. À Dodan. Alors Élisée, lui, il se doute de rien. D'ailleurs, il le dit, l'Éternel me l'a caché. Il ne me l'a pas révélé, il ne l'a pas montré. Vous voyez, quelque part, Dieu qui maîtrise la situation, là aussi, n'est pas dépassé. Il fallait que cette femme soit au contact de l'homme de Dieu. Il fallait que l'homme de Dieu, lui, soit au contact de cet enfant. Ce n'est pas le bâton, pas Gazi non plus, mais lui. Alors, ce que je vois également, c'est que son serviteur, lui, pas du tout branché, pas du tout sensible, il est prêt à le renvoyer. Alors, on lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, il sent, il ressent. Vous savez, il ressent les choses, hein. Ce que je remarque, c'est que la foi n'exclut pas la tristesse. Eh oui. Vivre sous la bénédiction de Dieu, recevoir les promesses de Dieu ne garantit pas que nous n'aurons jamais des contretemps. Qu'on ne prendra pas de coups. Non, au contraire. Alors la Tsunamite ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais pourquoi Dieu le permettait ? Ça devait trotter dans sa tête, hein. Alors, son âme était en deuil. Mais ce que je remarque, c'est qu'elle n'a pas perdu la foi. Elle garde l'objectif. Mon fils, il faut qu'il revienne à la vie. Amen. Donc, elle est venue jusqu'à Élisée. Elle a son besoin, il est grand, il est important. Elle sait où elle doit justement aller pour qu'il y ait réponse à son besoin. Amen. Elle se disait que la mort du garçon n'était pas spirituellement quelque chose de logique. Eh oui. Elle n'avait pas demandé à Dieu un fils, Dieu lui avait donné par sa grâce fils. Il était un enfant de la promesse. Alors elle a compris que ce ne pouvait pas être Dieu qui le lui avait enlevé. Elle ne critique pas Dieu, elle ne se rebelle pas contre lui, ni contre l'homme de Dieu. Elle se limite à dire, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Elle rappelle quand même certaines choses, bien sûr, hein. Alors oui, nous pouvons venir à Jésus avec également nos mêmes déceptions. Vous êtes toujours dans l'élan, dans l'euphorie. Il y a des fois, on vient avec les larmes, on se met à genoux, et des fois, on garde même le silence parce qu'on ne sait plus comment faire. Mais tout ça, le Seigneur le voit. Amen. Eh oui. Cette femme, elle réfléchissait. Et elle se rendait compte que ce qui lui arrivait, c'était l'œuvre de l'adversaire, le diable, l'opposition. Amen. Alors, pour elle, il n'était pas question de donner la victoire à son adversaire. Amen. Et vous voyez que, quelquefois, nous laissons des droits à l'ennemi. Nous laissons des droits à l'adversaire. Au lieu de lui résister, fixe les regards vers les montagnes. D'où te viendra le secours? David l'a expérimenté quantité de fois. Amen. Un échec, un contretemps, ça peut être un permis par Dieu également, afin d'éprouver notre foi. Quand tout va bien, c'est formidable de dire « Seigneur, je t'aime. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. » C'est un chant, hein? Et quand c'est difficile, quand c'est plus du tout comme le jour de fête ou le dimanche qu'on s'est réunis, on a loué le Seigneur, c'était extraordinaire. Voilà que le lundi, le mardi ou le mercredi, il y a quelque chose de terrible qui vous arrive. Mais Seigneur, je sais que tu es là. C'est le moment là d'exprimer sa foi et de la vivre. Amen. Alors la mort de l'enfant ne pouvait pas être de Dieu, car l'enfant avait été conçu selon sa promesse. Et la Bible nous dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est-à-dire que Dieu ne change pas d'avis. Il ne revient pas sur ses promesses. La Bible me dit que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Amen. Pourquoi on a besoin de bien réfléchir dans nos situations qui nous sont propres? Tu vas dire, mais ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de Dieu. C'est qu'il a une réponse à m'apporter. C'est qu'il a quelque chose à me faire comprendre. Puisqu'il permet l'épreuve. C'est pour nous faire comprendre quelque chose, nous faire saisir. Amen. Donc, je reste tout simplement dans la confiance. Amen. Dieu ne change pas d'avis. Mais ce qui est important pour nous, c'est la persévérance. Vous saisissez ? La persévérance. C'est quelque chose d'important. Si nous voulons recevoir quelque chose de Dieu, il va falloir être persévérant. Eh oui. Le problème, c'est que les gens, au lieu d'attendre avec une attitude ferme, une position de foi, la réponse de Dieu, eh bien, ils se lassent. Ça ne vient pas tout de suite. On est dans une société d'abondance, même si notre président dit que c'est fini l'abondance. Je ne parle pas du fromage, hein, qui est très bon. Mais avec Dieu, est-ce qu'il faut vivre chichement, excusez-moi? Qui c'est le plus riche? Eh bien, c'est lui. Et la Bible me dit qu'il veut pourvoir à tous mes besoins. Quand la Bible me dit que Dieu, il est immense en largesse, en bonté, en amour, qu'il accorde grâce sur grâce. Amen. Faut que je le croie. Alléluia. Et si je le crois, si je n'abandonne pas, si je persévère, si je vais jusqu'au bout, eh bien, il va se passer quelque chose. Dieu répondra. Écoutez un petit peu ce que dit l'Écriture. Nombreux endroits, mais j'en ai pris deux. Marc 13, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Votre persévérance. Il n'est pas dit là aussi que le Seigneur fait tout. Pour ouvrir là aussi et faire un débat, hein, il y a également notre part. Et oui, pour le salut, c'est lui. Amen. Je vais travailler ensuite à le maintenir, ce salut, à le garder précieusement, à avancer, toujours plus dans la foi, dans la confiance, lui permettre justement de me bénir. Amen. Alors persévérer veut dire ne pas abandonner, continuer jusqu'à la réponse. Amen. Heureusement que cette femme a persévéré, hein, car ainsi elle a pu pouvoir retrouver ce fils. Celui qui faisait la joie, hein, sa joie, son bonheur. Arrêtez-vous comme la tsunami dans la première partie de l'histoire. Un peu sceptique. Parce que ça tarde à venir. Ça tarde, persévère. Non? C'est ce que me dit l'Écriture. Elle persévère, eh oui. Certains voudraient croire, mais ils n'osent plus croire. Je rappelle Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru. Et parce qu'il a cru, il a vu. Amen. Et puis je conclue simplement en vous posant cette question. Est-ce que vous attendez de Dieu quelque chose? Est-ce que vous voulez voir Dieu agir? Quelle démarche à faire? Elle a quitté sa maison, son fils, c'est-à-dire le besoin, elle l'a laissé là-bas, et elle est partie chercher la réponse où? Auprès de l'homme de Dieu. C'est comme si c'était auprès du Seigneur. Donc, elle est vers lui. Hein, ne craignez pas, ne doutez pas, mais simplement croyez. Et si vous agissez comme cela, eh bien, vous allez lui permettre à lui d'agir pour vous. Amen. Ça, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir, hein, de la part du Seigneur. Il n'y a pas longtemps, j'ai prêché justement par rapport aux circonstances que l'on n'a pas prévues et qui nous tombent dessus comme ça. Comment réagissons-nous? Et là, eh bien, c'est un petit peu une suite, mais on en revient toujours pareil. Fixer les regards vers le Seigneur. Ne pas abandonner notre espérance. Continuer et persévérer jusqu'au bout en fixant les regards vers celui qui récompense la foi. Amen. On peut également être dans la peine, dans la tristesse. On peut, comme elle, à un moment donné, dire « Ah non, tu abuses là !» Mais Dieu nous connaît. Il savait que pour elle, c'était pas « Non, non, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. » Non, non. Dans le cœur, elle avait quand même ce désir, toujours. Cette souffrance était là. Elle ne voulait pas qu'on en rajoute encore. Mais ce qu'elle voulait, eh bien, c'est que, quelque part, mine de rien, il se passe quelque chose pour elle. Je ne sais pas ce que vous vous attendez, hein, mais si vous voulez quelque chose de la part de Dieu, allez, on va fermer nos yeux. J'aimerais simplement prier, demander au Seigneur de confirmer sa parole. C'est sa parole, ce n'est pas ma parole. C'est sa parole à lui. Seigneur, cette femme a vu le miracle se produire. Elle n'avait ou elle n'osait plus demander. Peut-être quelqu'un au milieu de nous vit une situation semblable. Avec le temps, Seigneur, il n'y a plus cet objectif de te voir agir là dans cette situation, dans ce problème. Seigneur, tu es la réponse. Je te demande tout simplement d'intervenir. De mettre comme dans le cœur de cette femme le désir d'espérer à nouveau. Seigneur, de transformer peut-être la lassitude, la fatigue. Seigneur, même si quelqu'un se sent complètement incompris, toi tu le comprends. Toi tu la comprends. Et tu es à même d'intervenir, d'agir, de faire le miracle. Cette chose-là, Seigneur, je te prie vraiment de la déposer dans le cœur de quelqu'un. De remettre, Seigneur, tout simplement l'espérance. Amen. De pouvoir agir, Seigneur, tout simplement, en permettant à quelqu'un de dire, je crois que tu peux le faire. N'hésitez pas, dans votre cœur, à dire, Seigneur, je compte sur toi. Je fixe les regards vers toi. J'ai abandonné pour un temps, maintenant je veux repartir. Et de nouveau me tenir à la brèche. Parce que, Seigneur, je veux te voir agir, je veux te voir à l'œuvre. C'est des choses pour vous ce soir. C'est quelque chose que Dieu veut vous faire quelque part comprendre, saisir. Non, tu n'es pas rejeté. C'est pas parce que tu as douté. C'est pas parce que, eh bien, tu as cessé de rechercher que moi j'ai abandonné. Ce soir, espère. Compte sur le Seigneur. Permets-lui de se manifester pour toi. Moi, je prie pour vous. Je prie afin que Dieu se manifeste, que dans votre cœur jaillisse de nouveau ce désir, cette soif de voir la gloire de Dieu descendre sur vous. Amen. C'est le temps de Dieu, mais c'est aussi le moment pour vous. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui ce soir a saisi, a senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait redémarrer? Voilà, baissez votre main. S'il y a encore quelqu'un, n'hésitez pas, oui. Baissez votre main, Dieu vous voit, baissez votre main. Voilà, baissez votre main, oui, gloire à Dieu. Voilà, baissez votre main, oui, baissez votre main. Baissez votre main aussi, Dieu vous a vu. Amen, amen. Croyez, amen. Seigneur a vu, il a vu que vous avez fait la même démarche qu'elle. Alléluia. Vous allez tout simplement, après être allé dans la chambre haute, aller vers l'homme de Dieu. Amen. Vous allez vers Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est en train d'agir pour vous ce soir. Comptez sur lui. Amen.